baptise tout le monde, mais bon, c'est une simple croix, cette Jésus qui est dans son maison avec des colonnades comme ça. Un repas assez vaste. Et cette femme qui arrive, connue de tout le monde, qui avance, et puis à la fin de l'évangile, c'est l'absolution. Alors on utilise toute la théologie du sacrement de pénitence comme ça, c'est à cause de cette en partie, avec cet évangile qu'on a toutes les étapes du sacrement de pénitence, de confession. On s'avance, il y a quelque chose de public dans la confession toujours. Même si on va voir secrètement, on dit secrètement, même si la confession avec Jésus est secrète dans le prêtre, on confesse publiquement. Elle n'a pas peur d'affronter le regard des gens. Elle n'a pas peur de dire qu'on la juge, quoi. Et tout le peuple de Dieu, c'est un peuple qui s'avance. Qui n'a pas peur de considérer que si les peuples de Dieu, c'est parce qu'il reçoit la paix. C'est parce qu'il fait pénitence, c'est parce qu'il est pécheur, c'est pas parce qu'il est saint. La sainteté consiste à recevoir la sainteté de Dieu qui nous pardonne. Comme nous, on n'arrive pas à avoir cette sainteté parfaite, dans les parties vacantes, il met sa propre vie à lui. Et c'est comme ça qu'on est saint. Mais plus il y a au fond. Cette humilité pécheresse, plus la toute-puissance divine de sa sainteté nous en nous donnant l'absolution, prend la place. Et donc c'est une gloire pour nous d'être pécheurs. On n'a pas peur d'être jugés comme des pécheurs. Plus on nous jugera, on rejettera, on méprisera comme des pécheurs. Mieux ce sera. À l'inverse, voyez, vous avez les parfaits, les cathares, eux, non. Ils sont parfaits. L'illuminisme, l'hérésie mystique qui correspond à ça, c'est l'illuminisme. Nous, on est parfait. On est devenu parfait. Alors, ça s'appelle les illuministes, l'illuminisme. Alors, moi, je suis au-dessus de Saint-Jean-de-la-Croix, je suis au-dessus de tout. J'ai atteint des degrés tellement supérieurs, j'étais tellement plongé dans l'acharnement, la destruction totale de toute ma vie, de moi-même par le démon, en me laissant prendre comme ça, en enfer librement, que du coup j'ai atteint des... comme si c'était le démon qui nous mettait dans cette imperfection, en nous détruisant. Mais non, pas du tout, on demande pardon de nos péchés, on est en dessous de tout. On demande pardon. Je me rappelle quelqu'un que je connais, c'était à Montmorin toujours, mais c'est toujours les mêmes personnages. Mais le père Manuel confessait les ermites, quoi. Bon, on pouvait se confesser aux autres pères, mais ils n'étaient pas si nombreux que ça, les autres pères. Ils étaient moins disponibles, peut-être. Quoi. Bref, ils confessaient alors. Je me rappelle, il y avait une petite sœur qui était. Voilà, qui était plus triste, enfin c'est pas triste, c'est pas dépressif non plus, parce que c'est pas ça, c'est mélancolique, je sais pas comment est-ce qu'il faut dire ça. Et alors, bon, le père Emmanuel, quand il l'a confessé à un moment donné, il avait comme le curé d'Ars, bon, dans la confession, et... Il l'a levé, il l'a pris dans ses bras pour chasser un démon de... Il l'a pris dans ses bras comme ça. Mais à ce moment-là, une autre petite sœur rentre pour la confession et voit cette proximité inhabituelle, disons. Voilà. Et ça avait choqué cette petite Clarisse, qui par ailleurs est très 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 sympathique, très ouverte, tout ça, mais... Et alors le père Emmanuel, au lieu de dire, bah, écoutez, mais qu'est-ce que faut, tout de même, vous ne serez pas scandalisé pour rien du tout, je veux dire, hein, c'est pas parce que je caresse un enfant, hein, ou quelqu'un qui a des langueurs, des grandes souffrances. Que... Non, il ne s'est pas défendu, il a dit, il a laissé, il a donné l'absolution à l'autre, et puis il est sorti de l'oratoire, où il y a la Santissima Romina, de la Dodo, je me rappelle. Parce que c'était avant la messe, il y avait 4-5 qui se confessaient, qui attendaient. Voilà. Et puis il est sorti en disant, je suis le plus grand des cochons, je suis le plus grand des pervers, je suis le plus grand des... Et il hurlait comme ça. Je suis le plus grand des cochons, je suis le plus grand des pervers. Et puis c'est pas une litanie de trucs, mon Dieu, il était... C'est mais oui, c'est... En même temps, ça l'arrangeait bien de dire ça, parce qu'il disait comme ça, au moins maintenant, quand je confesserai, on laissera toujours la porte ouverte, tout le monde pourra voir, tout ça. Ça l'arrangeait bien, quelque part, de dire ça. Mais il n'était absolument pas dérangé qu'on puisse penser du mal de lui, même s'il n'y avait rien dans lui, quoi. Mais ça fait rien, ça ne le dérangeait absolument pas. C'est extraordinaire, oui, cette femme, elle rentre dans la salle du pharisien, et elle n'a absolument pas peur, au contraire, du regard des gens sur elle. Mais je serais... Voilà, ça n'a pas peur. On n'a pas peur de dire, on est, oui, bah oui, on a besoin de l'absolution, on a besoin du pardon de Dieu, on a besoin de... Le peuple de Dieu, c'est ça, c'est un peuple, c'est le peuple du pardon. Il est pardonné, c'est pour ça que c'est 50 et 500 fois. L'Église, c'est ça. Et donc, à la fin, effectivement, les gens disent, mais qui est-il, ce fils d'homme qui pardonne les péchés, on comprend tout de suite ce que ça veut dire pour les juifs, est strictement impossible de pardonner les péchés, puisque toute la liturgie, justement, 50 ans, c'est pour montrer qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Donc, qui est cet homme, il n'y a que Dieu qui pardonne. C'est seulement Dieu qui pardonne. Alors, mais il y a la grande question, que seul Messie, c'est une chose, mais est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le Fils de l'homme? Alors Jésus, devant cette pensée, eh ben, il dit, enfin, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est Dieu qui assume la foi, la compassion de Marie dans l'ensemble du peuple de Dieu, de le monde ancien, de l'humanité du passé, de l'humanité présente et de l'humanité future, qui saisit de la foi, de la mystère de compassion de Marie, pour donner l'absolution. C'est une coopération entre Dieu qui seul donne l'absolution et la foi de l'Église tout entière accomplie qui donne l'absolution. L'absolution vient de l'unité des deux. C'est ça qu'il dit. Hein? Alors, quand on voit ce que Jésus dit là, c'est la foi qui t'a sauvé. Tu es pardonné, c'est la foi qui t'a sauvé. Il dit quand même quelque chose qui pour nous est important parce que Marie, la médiatrice, l'Immaculée Conception, elle a été sauvée dès le premier instant de sa conception. Et ça ne vient pas d'un acte de foi de Marie. Vous n'aviez pas pensé à ça, hein? Le dogme de l'Immaculée Conception, c'est qu'elle reçoit l'absolution immédiatement. Et donc, elle a été sauvée. C'est ça, le dogme de l'Immaculée Conception. C'est pour ça. C'est pas un dogme qui était facile. Hein. On a dit, mais c'est pas possible. Tu peux pas dire que Marie est l'Immaculée Conception. Tu peux dire qu'elle a pu, eu le temps de faire un acte de foi. Dans les premiers instants de sa vie de conception. D'accord? Et que du coup, elle a été absoute. Et que c'est en raison de sa foi qu'elle était absoute, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça. Vous voyez vous voyez bien que Jésus dit, attention, c'est Dieu en association avec la foi, accompli de l'Église. Ça vient du Fils de l'homme venant sur les nuées et se saisissant de la foi accomplie et transfigurée de la Jérusalem tout entière dans la Vierge d'Israël, qui obtient l'absolution. Alors, donc tout de même, c'est quelque chose, ça fait réfléchir à ça, il montre bien que c'est une communion d'amour, dans l'accomplissement de cet amour, à l'intérieur de sa mort éternelle, d'amour, qui donne l'absolution. C'est une coopération, C'est-à-dire, c'est une union, c'est une indivisibilité entre les mérites de la foi et de la sainteté partagée, et puis Dieu en lui-même. Bon. Tout ça pour en venir à ceci. C'est que si il ne peut pas y avoir eu d'absolution incarnée dans l'Immaculée Conception, s'il n'y a pas eu la foi, il a bien fallu qu'il y ait la foi. Est-ce que vous voyez, je suppose, où je veux en venir? Il y avait forcément la foi. Parce que c'est encore en raison de la foi que les péchés sont pardonnés. Elle a été pardonnée. Elle a été sauvée par le Christ dans l'instant de sa conception. Mais où est la foi? C'est forcément la foi dans son principe. Et c'est là, voyez, qu'on comprend ce que Maureen m'a expliqué. Toujours, on revient toujours à la même chose. Qu'il y a une sponsalité déjà incarnée, accomplie et parfaite entre Joseph et l'Immaculée Conception par la foi. Regardez, comme on a vu ce monsieur qui voit une petite fille sur le rebord de la fenêtre. C'est après, 40 ans après, il la reconnaît. C'est invraisemblable. Il t'a dit, je suis tombé à moi quand j'ai vu cette petite fille, puis je l'ai reconnue 40 ans après, on s'est mariés, voilà. Bon. Lorsque Dieu nous crée, on sort des mains de Dieu, on est dans la maison, et on voit par... on dit oui à tout ce qui va devenir lorsqu'on va sortir de la maison. Pour aller dans le ciel des demeures éternelles de la Jérusalem glorieuse. On voit le chemin qu'on va parcourir. Saint Joseph, il a dit oui, bien sûr, dès qu'il a été conçu. Il a dit oui, il a demandé pardon, surtout. Il a demandé pardon. Mais il a dit oui, surtout. Il a dit oui à tout ce qui allait advenir dans sa vie. Dès lors qu'on est créé, c'est là où il faudra vraiment beaucoup approfondir. Beaucoup, beaucoup approfondir avec une très, très grande précision. Avec une très grande clarté. Et sans détour, ce qui se passe au niveau de la sponsalité. Le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II maintenant, il a dit d'une manière parfaitement claire que la sponsalité s'inscrit dans le livre de la vie, à l'instant de la conception dans le génome. Elle s'inscrit dans le livre de la vie, d'où émane le corps spirituel accompli, entre l'espace, entre le principe dans lequel, duquel nous commençons d'exister, et la connaissance que nous en avons de nous-mêmes et de Dieu, et du grand parcours. Et puis l'inscription dans le livre de vie, il y a chemin de lumière. Et ce chemin est un chemin sponsal. Rien, la sponsalité s'inscrit. La Bible le dit, « Zakar ou ne que va, Mara Elohim. » Quand Dieu me crée, époux ou bien épouse. Donc, tout mon oui originel, dans la signification libre de mon don, et de l'accueil, de l'échange, de l'accueil du don, s'inscrit dans une aspiration et une évidence, une clarté sponsale. Vous comprenez ce que je veux dire? Si bien que il a été enseigné pendant 9 mois par Enoch et par Élie, le prophète. Pendant 9 mois, par la médiation angélique. Pourquoi? Parce qu'il a reçu cette absolution très vite, lui. Lui fait partie, bien sûr. Il est tout à fait possible, on le voit d'ailleurs pour Jean-Baptiste, de poser un acte de foi qui justifie, qui fait rentrer dans la grâce sanctifiante, l'absolution très longtemps avant la naissance. Pour Saint-Joseph, ça a été très vite. Lui, c'est par la foi qu'il a reçu le pardon des péchés. Parce qu'il a eu la connaissance, justement, de l'Immaculée Conception. Parce que c'était sa prédestination sponsale. Il a partie, oui. Il a été dans le péché originel, qu'est-ce que vous voulez? Il a participé, certainement, à sa manière, certainement, de manière très très minime, à la propagation du péché originel. Il y a quand même eu un petit moment, mais tout de suite, dans la connaissance qu'il avait de sa liberté responsable dans l'ordre du temps, jusque dans l'inscription du livre de la vie, il a tout de suite vu ce que c'était que l'absolution, et il l'a épousé. Il a compris qu'il était la moitié responsable de l'absolution universelle du monde. Il a voulu cela, il a accepté, ça lui était présenté. Il a reçu l'absolution. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il est rentré dans la présence réelle de cette absolution par la foi. C'est ta foi qui t'a sauvé. Sinon, ça n'aurait pas été possible, vous comprenez, s'il n'y avait pas eu cette responsabilité continuelle pendant 19 ans. Et l'unité, donc, entre dans la responsabilité, c'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est très très important de rentrer dans cet univers de la responsabilité, surnaturellement, mais aussi humainement, et puis avec notre liberté dans l'échange de la qualité du temps originel et final de nous-mêmes. C'est une chose très, très, très facile et très simple. Mais ça change tout parce que ça ouvre tout en nous. Quand on dit on déchire le voile, et le deuxième, et le rideau, et toutes les portes s'ouvrent, les temps, c'est toujours à l'intérieur de la signification responsable du corps que ça s'ouvre. Parce qu'il y a le don, la liberté du don, et l'échange de la qualité du don dans la nudité. De la responsabilité agréée de Dieu. C'est ce qui s'est passé. Hein. C'est ce qui s'est passé. Et on est toujours à vivre au bout d'un certain temps. Non pas de notre amour pour la petite fille qui est sur la fenêtre. Ou de l'affection qu'elle nous porte parce qu'elle est toute émue à cause de ça. Mais on vit d'autres choses. On vit de ce qui est... Tout ça, ça s'efface. Petit à petit. Mais on vit de la signification responsable, c'est-à-dire tout notre corps tremble. Des coulines, j'aime bien ce mot des coulines, et tout palpitant, de l'huile, de l'au-delà de l'unité, ce n'est plus l'Immaculée Conception, et puis le principe de l'Immaculée, enfin, l'époux, quoi, l'époux, c'est au-delà de l'unité des deux, si bien que l'Immaculée Conception existe et vit déjà à l'intérieur de Saint-Joseph avant qu'elle n'existe, pour une raison très simple, c'est parce que dans la sponsalité, c'est toute l'Immaculée Conception qui l'a saisie. Et comme il était dans la foi, il était porté par l'Esprit Saint et le miracle des trois éléments. Et donc il a été porté jusque dans les profondeurs, sous le sceau de l'Esprit Saint, de Dieu, dans l'Immaculée Conception, qui l'épousait déjà par appropriation, par anticipation, par puissance. Et dans le mystère de l'Immaculée Conception, il y a quelque chose qui fait qu'elle est présente avant lui, puisque l'Immaculée Conception est présente dans le beurre-gîte de la création du monde. C'est marqué ça dans le livre de la sagesse. Et donc il a épousé dans le principe de la création du monde la présence de l'Immaculée Conception, qui finalement, quelque part, était avant lui. Si bien qu'il y avait quelque chose de très concret, c'était pas simplement par anticipation, c'était aussi dans la présence actuelle, une spontanéité extraordinaire dans le principe. Ce qui faisait que, on peut dire qu'à travers cette spontanéité, la foi de Joseph, c'était la foi de Marie, puisqu'il y a une indissolubilité dans la lumière, l'échange et l'accueil du temps, vous comprenez? Et donc si Marie est Immaculée Conception, c'est inséparable du mystère de la sponsalité. Et Jésus le dit ici. C'est ta foi qui t'a sauvé. C'est la foi qui t'a sauvé. Et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'il y a pu y avoir quelque chose d'extraordinaire qui était assumé. Ah, c'est formidable le drache. Oui, ce matin, on a regardé le chat et le remas du texte de l'Évangile. Et là, on est en train de faire le drache. Le drache, c'est ce qui, ça a été, c'est dans le Bereshit. C'est le principe. Jusque dans l'inscription du livre de vie. De l'Église actuée, parfaite, disparue dans la responsabilité agréée de Dieu. Et ça, c'est le drache de ce passage, voyez. Le midrash, c'est comment le corps mystique vivant, dont nous sommes les membres vivants et entiers, en même temps le temple entier, de vie. Comment Dieu nous saisit, nous engloutit, et nous fait rentrer dans la très sainte Trinité par le ministère du peuple de Dieu tout entier, dans l'indivisibilité. Dieu. Il y a une indivisibilité dans l'unité responsable. Il n'y a pas seulement une indissolubilité, il y a aussi une indivisibilité et une unité avec toutes choses vivantes du peuple de Dieu dans la Jérusalem glorieuse et dans les poussets, qu'une autre indivisibilité. Sinon, ce ne serait pas possible, vous voyez. C'est là que vous voyez que c'est pas si facile que ça pour le pape de faire un dogme. Parce que avant de faire admettre à toute la chrétienté le dogme de l'Immaculée Conception, c'est pas évident. Parce que tout ça est sous-jacent, vous comprenez? Comment ça? Et il y a tous les. Et même les orthodoxes. Et quand se fait-il que les orthodoxes aient de la difficulté avec le dogme de l'Immaculée Conception? Ben, vous voyez, quand on donne une petite explication scripturaire ou théologique ou doctrinale, on voit tout de suite que c'est pas évident. On peut être très 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 généreux vis-à-vis de Marie, mais enfin quand même, faut pas pousser le bouchon trop loin, puisque la pardon des péchés, ça vient de la foi. Vous comprenez ça? Donc on comprend que là par exemple, Jean-Luc, il arrose par internet, etc. des textes pour montrer que Marie, que ça vient du NSR, enfin peu importe, pour montrer que Marie a été conçue par l'opération du Saint-Esprit en Anne, sa maman, et que son papa, Élie, enfin Joachim, lui n'a rien à voir. Il n'est pas là. Le Père n'est pas là. Au moment, pour la conception de Marie, le Père n'a joué aucun rôle. C'est directement, c'est par l'opération du Saint-Esprit. C'est une conception divine. C'est par l'opération du Saint-Esprit que le Saint-Esprit a pris quelque chose dans Sainte-Anne et puis a fait qu'il y a eu l'Immaculée. Marie commençait à apparaître dans son sein. Mais que, bon, bien sûr, elle était mariée avec Joachim, mais c'était...
C'est vrai.
Alors, on a beau aimer beaucoup Marie, hein, donc ça veut dire que tout le monde a été conçu parmi les êtres humains à partir de la responsabilité, sauf Jésus, puisque Jésus s'est incarné à partir de Dieu le Père, première personne de la très sainte Trinité, la foi de Marie assumée. Voilà, donc Saint Joseph, lui, c'est vrai, Saint Joseph, quelque part, n'a pas eu sa part dans la fécondation. Dans la fécondation. N'est-ce pas? Ça d'accord. Mais il a eu sa part dans la responsabilité. Il ne faut quand même pas l'oublier. Hein. Mais enfin, ça, c'est pas grave. Donc, mais on ne peut pas demander à des petites femmes qui appartiennent aux paroisses de Grenoble de comprendre ce que c'est que la responsabilité. C'est pas si facile que ça. Et donc, cette personne, et puis le brave Jean, Il arrose. Moi, il m'a envoyé, je sais pas, 15-20 fois, ces textes-là. Enfin, je répondais, je dis non, c'est pas possible pour ça. Et puis, il me le renvoyait comme si je n'avais pas répondu.
Je n'avais pas compris.
Et puis, il me le renvoyait encore comme si je n'avais pas, comme si je donnais pas de nouvelles explications. Puis, par téléphone, puis il me le renvoyait. Alors, par générosité, parce que par amour pour Marie, il faut comprendre que Marie est divine. Donc la divine conception de Jésus. Il y a deux divines conceptions substantielles. C'est Jésus, hypostatique, et c'est Marie. On ne peut pas. On ne peut pas dire ça à Marie. Elle a été sauvée. Parce que si c'était ça, elle n'aurait pas eu besoin d'être sauvée. Si c'était ça, Marie n'a pas été sauvée. Jésus n'avait pas besoin d'être sauvé, puisqu'il était conçu du Saint-Esprit. Une conception divine pure. Donc, non, c'est parce que nous sommes inscrits dans un peuple de Dieu qui a besoin du pardon, qui a besoin d'être sauvé. Et nous avons ici aussi la responsabilité. Même Jésus lui-même était issu de la responsabilité. Et parce qu'il y a une part responsable dans le sang de Marie, parce qu'elle le vit complètement hors d'elle-même, dans l'au-delà de son unité responsable avec Joseph, donc elle porte ce souci des séquelles du péché originel dans le monde du passé, du présent et du futur. Que du coup Jésus s'incarne en elle comme rédempteur et comme porteur du poids de croix immense qui va envahir son âme. Donc je disais ça parce que même si on veut faire plaisir à sa Vierge pour l'exalter au niveau de Dieu lui-même, c'est ça. On peut, si c'est pas vrai, on n'a pas le droit de le dire, même si ça la met au-dessus. Au-dessus de quoi? Ça la met au-dessus de rien du tout. Vous voyez? Alors c'est pour ça que pour les orthodoxes, c'est pas facile. À leur niveau à eux, de comprendre le mystère de l'Immaculée Conception, puisque c'est par la foi qu'on est sauvé. Et combien de fois saint Thomas d'Aquin et les pères de l'Église ont expliqué que Marie n'est pas Immaculée Conception si on l'entend. Comme par exemple sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église, il y a des messages de Dieu le Père, elle est quand même stigmatisée. C'est peut-être la plus grande sainte de toute l'Église catholique, c'est sainte Catherine de Sienne. C'est probablement la plus grande sainte de toute l'Église. Sur le parcours des 2000 ans, si on faisait un sondage auprès des grands mystiques, c'est elle qui arriverait en premier. Et elle a des messages, et Dieu le Père s'exprime, et Dieu le Père dit, Marie n'est pas Immaculée Conception. Et quand Dieu le Père dit, elle n'est pas Immaculée Conception, il entend le mystère de Marie Immaculée Conception comme l'entendent les orthodoxes, c'est-à-dire... Marie n'est pas quelqu'un qui n'a pas besoin d'être sauvée. Elle est créée par pure gratuité, par miracle. Comme Ève, comme Adam, dans une perfection non seulement humaine, mais une perfection surnaturelle, de plénitude dès le départ. Voilà, à partir de rien, sans aucun mérite, je suis dit, c'est par la foi que tu es pardonné. Tu es sauvé. Donc le Père dit à Catherine de Sienne, elle n'est pas Immaculée Conception. Non. Alors évidemment, le Père à Sainte Catherine de Sienne n'a pas donné la réponse aux orthodoxes. Il a dit, vous avez raison de ce point de vue-là. N'est-ce pas? Comprenez ça. Et donc, lorsque nous nous rentrons dans l'Église catholique, nous disons Immaculée Conception. Pourquoi? Parce que nous voyons bien que Marie n'est pas issue de la terre originelle du paradis. Donc il y aurait eu trois créations émanant de la terre toute pure, immaculée, originelle du paradis terrestre. Non. On sait très bien que le dogme ne sait pas ça. Le dogme dit que justement, elle n'est pas sortie de la terre toute pure, immaculée et sainte du paradis originel. Le dogme, c'est qu'elle émane de la terre toute divine, toute pure, de la transverbération de l'union hypostatique des cires de Jésus sur la croix. Il a donc bien fallu qu'il y ait la foi vive de cette ouverture de l'union hypostatique de l'agneau sur la croix pour y pénétrer, pour le toucher, pour la contempler, pour en vivre. Et dans cette fenêtre, il a vu l'Immaculée Conception, vous comprenez? Et c'est par la foi. C'est par la foi. Et c'est par la foi qu'il a vécu. C'est pour ça que le Saint-Père met le fruit du nard sur ses arbres, parce que Saint-Joseph, lui, c'est le fruit éternel. Et dans tous les temps, jusque dans le principe de l'union hypostatique des cires et de l'agneau, qui fait émaner du Verbe de Dieu la virginité d'Israël tout entière. Et lui, il est le roi d'Israël. Et c'est par la foi, vous voyez, c'est pas... Alors pour nous les catholiques, c'est évident. Pourquoi? C'est la preuve que Jésus est Dieu. Nous, on n'a pas de difficulté à dire comment ça, il pardonne les péchés, alors que c'est un homme. Nous n'avons pas cette difficulté parce que devant l'union hypostatique désirée de Jésus, qui est présente dans l'Eucharistie, avec toute sa passion et sa mort qui est là jusqu'à la fin du monde, c'est une mort vivante, c'est-à-dire il vit sous le mode du Verbe de Dieu vivant la mort dans l'ouverture du cœur. Sinon, on est habitué à ça. Ça ne pose pas de difficulté pour nous. C'est Dieu qui sort tout de suite de l'union hypostatique de Jésus dans la substance de ce qui est sous vos yeux. La vie contemplative de la foi permet de voir ça, de comprendre ça. Et donc on voit bien que c'est Dieu qui pardonne, c'est Dieu qui fait émaner de l'eau, le sang, évidemment sous le souffle du Saint-Esprit, c'est sûr. Et donc pour nous, ce n'est pas une difficulté quand on regarde Jésus, surtout quand Jésus, dans son âme de Fils de Dieu, disparaît, s'efface par amour pour son Père. Et il ne faut pas oublier que dans le mystère de compassion, il fallait qu'il le fasse. Parce que sinon, le salut n'aurait pas pu advenir dans le monde. Et il a trouvé un refuge dans la foi de Joseph, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est que quand il a arraché son âme de son corps, le Christ, ce qui était strictement impossible, il l'a fait parce que c'était la volonté du Père. Il a trouvé refuge immédiatement dans la foi de Joseph, parce que Saint Joseph, lui, il vit ça déjà depuis 1290 jours dans les enfers. Et dans les enfers, c'est-à-dire dans les lieux inférieurs, il est dans la lumière toute pure, immaculée de sa spensialité, de sa foi à l'accomplissement de tout. Et c'est la foi. Il ne faut pas oublier qu'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph sont dans cette attente. Et ils continuaient dans la foi. Saint Joseph était encore dans la foi. Et aussitôt, c'est dans le refuge de la foi commune de l'au-delà de l'unité sponsale de Joseph et de l'Immaculée Conception dans l'accomplissement de la rédemption universelle des temps inscrits dans le livre de la vie. C'est là-dedans que l'âme de Jésus peut venir s'engolfer pour glorifier son corps mort, ouvert. Et son corps devient glorieux parce que il opère le don de sa propre personne divine elle-même, comme elle poussait dans la transverbération de Marie, pour rendre actif le fait de cette compassion. Et on voit très très bien, c'est très très clair pour nous, que sans la sponsalité, sans la foi, c'est impossible. C'est vraiment Dieu. C'est Dieu, le Dieu incréé, créateur de toutes choses. Et c'est dans le principe qui crée toutes choses à partir de... Et transplantation, on peut dire. Du principe de toutes choses à partir de l'inscription dans le livre de vie, dans l'éternité, dans cette source nouvelle, qui est l'union hypostatique de Jésus. Pour nous, c'est facile, ça. Pour les Juifs, c'était pas si facile que ça. Mais bah, vous me direz pourquoi pour les orthodoxes c'est difficile. Pour les orthodoxes c'est difficile parce que la sponsalité pour eux n'est pas évidente. Il y a eu quelque chose qui en l'an 1000 a fait que, voilà, on a dit le Saint-Esprit, on a fait un dogme, enfin l'Église catholique, le Rome, le pape, a dit quand même, il faut quand même dire que dans la très sainte Trinité, il y a un mariage, quoi. Enfin, le Saint-Esprit, lui, vient de la disparition dans l'amour, dans la procession d'amour et d'inspiration des deux premières personnes. Et on lit dans le Credo, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Et ça, ils ne l'ont pas accepté. Vous savez pourquoi ils ne l'ont pas accepté? Uniquement pour des raisons mystiques, parce que la spiritualité orthodoxe consiste à vivre dans l'Esprit Saint, des énergies du Saint-Esprit. Et c'était une époque où l'Église orthodoxe de Grec, développer des saints comme Simon, nouveau théologien, Saint Grégoire Palamas, où on était comme le réceptacle des rayons de toutes les énergies du Saint-Esprit en nous. Donc, le Saint-Esprit était actif. La mystique orthodoxe. Saint Grégoire Palamas. Alors du coup, c'était difficile. C'est difficile, mais ça c'est mystique. Tandis que dans l'incré, il y a Saint-Esprit. Et pourtant, le fait que dans la très sainte Trinité, les deux premières personnes vivent une unité d'effacement mutuel dans l'amour. Ils se donnent activement dans un amour fou, éternel, substantiel, intégrique. C'est une vérité qui vient des pères grecs orthodoxes de Constantinople, pas de Rome. Et c'est à cause, pour des raisons donc mystiques, puis aussi politiques, que du coup il y a eu un cardinal qui s'appelait, je crois, Balaam, catholique, qui était allé ferrailler théologiquement avec les orthodoxes. Et puis en leur disant, mais c'est condamnable votre truc là, ça s'est mal passé quoi. Alors on est resté pendant 1000 ans sur cette bêtise, parce que c'est une bêtise. Et du coup ils se sont, spirituellement, mystiquement aussi, éloigné. Il y avait vraiment une amertume, une très grande souffrance que l'Église catholique soit partie sur le filioque. C'était pour eux une espèce de gifle qu'on leur avait fait. Et donc, s'ils voulaient rester dans la succession apostolique et fidèles à eux-mêmes, il fallait qu'ils s'inscrivent de plus en plus hors de la spiritualité théologale du filioque. Ils ont développé toute leur liturgie depuis 1000 ans et leur spiritualité hors de cette perspective ancrée de l'aspiration active jusqu'à l'aspiration passive. Et s'ils s'y sont habités pendant 1000 ans, d'où la difficulté énorme, puisque je viens de vous expliquer que sans la spontanéité, comment veux-tu voir que l'Immaculée Conception émane dans l'ouverture de Dieu et Bastiactité Siret de Jésus, qui vient s'engolfer glorieusement dans la paternité de Dieu pour donner l'Esprit Saint, et sous l'opération vivante et ancrée du Saint-Esprit, transverbère Marie comme corps rédemptrice. Tu peux pas le comprendre. Mais vous avez un très bel évangile aujourd'hui quand même, on a un très bel évangile. C'est pour ça que quand on prie la nuit, voyez, on prie toujours, quand on prie pour les orthodoxes, vous avez remarqué, on prie, on prend autorité sur ces obstacles-là, pour les arracher, les détruire, faire qu'ils s'évanouissent et qu'ils puissent librement dire, mais si, bien sûr, puisque ça vient de chez nous, ça vient pas des latins, ça vient des grecs. C'est ridicule, donc, et enlever les obstacles. Le Saint-Esprit peut très bien le faire, bien sûr. Je me rappelle, j'avais discuté avec un père ermite qui était orthodoxe à 1 kilomètre à vol d'oiseau de Domanova. Il venait me voir souvent, il m'aimait bien. Père Cassien. Et puis je lui disais ça. Il disait, oui, ça, oui, oui. Alors, il venait me voir, je serais, oui. J'étais content de savoir qu'il y avait une voix qui venait de eux, qui n'était pas irréductible. Ils voyaient bien qu'il y avait une séparation depuis 1000 ans, mais. Et puis, filioque, ça ne va pas. Donc, je vais expliquer pourquoi ils avaient raison de dire que ça n'allait pas, de dire filioque. Parce que filioque, c'est une génération. Ce n'est pas une inspiration. Voilà. Donc, l'Immaculée Conception, c'est pareil. C'est oh! Ah oui. Et puis il dérivait sur autre chose parce que. Mais ça fait rien. Il était content quand même, quelque part. Voilà, on prie la nuit pour que justement ces obstacles idiots là s'effacent comme ça. Mais les discussions qu'il y a avec les orthodoxes, le pape François, c'est pas un théologien, le pape François, c'est pas sa manière à lui de faire. Il ne va pas expliquer, en fonction de la spontanéité de Jean-Paul II, aux orthodoxes, que voilà, c'est eux qui avaient raison. C'est... Donc voilà, bon, il a 800 voies d'accès pour faire sauter. Pour faire sauter un obstacle, pour faire sauter un lien. Une récrimination, une amertume, parce que c'est une véritable amertume, c'est sûr. Moi, j'ai entendu des cris de haine contre l'Église catholique quand j'étais chez les orthodoxes, des cris de haine féroce à cause de ça. Parce qu'il n'y a qu'une conception à cause de... Terrible. C'est surtout les laïcs. Hein. C'est affreux. Hein. Comment est-ce que vous osez vous... Ils ont beaucoup de mal, donc ils ont beaucoup de mal. Et nous, on a beaucoup de mal à comprendre, ça nous paraît invraisemblable. Mais puis maintenant, quand on creuse quand même et qu'on regarde un petit peu plus près, on comprend mieux que c'est pas facile à comprendre, que c'est pas facile d'atterrir par la foi au dogme de l'Immaculée Conception. Voilà, bon, tout ça pour dire. Effectivement, il fallait, et ça, tout ça pour revenir à un principe très important, c'est qu'il faut la compassion, il faut la compassion. Il faut le Jésus et la foi du mystère de compassion de l'Église catholique accomplie. Sinon, il n'y a pas de rédemption du monde. C'est toute la nature humaine qui est offerte en holocauste d'amour. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est quand vous êtes à la messe, quand vous allez communier, vous vous laissez envahir par cet holocauste brûlant d'amour à l'intérieur de vous. Et vous allez voir que toutes les portes s'ouvrent à l'intérieur de vous et que la nature humaine tout entière, c'est vous. C'est vous. Quand Marie prie, quand Joseph prie, quand Jésus prie, c'est pas lui seul, c'est la nature humaine tout entière. Il vient habiter la nature humaine tout entière. Celle d'Adam, celle de Hitler, celle de la nature humaine tout entière de tous les enfants, des hommes. Quand Marie prie, elle est l'unique absolution incarnée et substantielle pour la nature humaine tout entière. Et quand nous, on est dans l'Eucharistie, dans sa sacerdoce royale, on est membre vivant, Jésus vivant. Et on est dans mon corps, dans notre corps spirituel. Dans notre corps originel et dans notre corps catholique, notre corps eucharistique, on est la nature humaine tout entière. Et Saint Joseph a vécu ça pendant 19 ans sans s'arrêter, et c'est là qu'il épousait la nature humaine tout entière, immergée dans l'Immaculée Conception, jusque dans le principe de la création de la matière. Sinon, la spontanéité n'aurait pas été possible. Ça aurait été une spontanéité, non pas imaginative, mais anticipée. Mais la spontanéité anticipée n'existe pas. Il faut qu'il y ait une unité sponsale, la signification sponsale de l'un et de l'autre. Ça fait comprendre beaucoup de choses, vous voyez. Et quelque part, vous voyez, c'est... Je me rappelle qu'avant de partir là, avec vous à la Salette, c'était une de mes des choses que j'avais dans le cœur, dans l'esprit. C'est qu'il faut absolument expliquer concrètement la spontanéité. Il va falloir expliquer concrètement. Il faut absolument que dedans de nous, il y a un déploiement spontané et que pour nous, ce soit facile de vivre de ce déploiement sponsal continuellement. Et il faut l'expliquer comment on fait, comment on rentre dedans, comment on le reprend, comment on le retrouve. Il faut le contempler. Mais finalement, on n'a pas fait. finalement, on ne l'a pas fait. Mais il faut absolument, c'est vital de faire ça. C'est presque une condition sine qua non. Il faudra le faire, mais déjà, moi je vous le signale à vous, parce que quand vous prenez un enfant, quand vous prenez le cœur de votre moitié sponsale, quand vous prenez Jésus, quand vous prenez le verre, les poussettes, quand vous brûlez dans l'au-delà de l'unité des dieux, vous vous habituez petit à petit, il faut s'habituer à faire que la féminité ou la virilité sponsale prennent toute la place dans l'échange de l'accueil et du don, dans la nudité de la masculinité, de la féminité disparue dans l'au-delà de l'unité des deux. Il faut s'habituer à ça. Dans le sang, il faut s'habituer à ça. Dans la lumière, il faut s'habituer à ça. Dans la transfiguration, il faut s'habituer à ça. Dans la nature humaine tout entière, il faut s'habituer à ça. Dans la signification de l'unité et du don, la liberté du don. Il faut s'habituer à ça dans l'innocence divine originelle retrouvée primordialement, dans l'amour et la béatitude retrouvée intégralement par puissance de rédemption sponsale. Et puis on voit que le corps, complètement, c'est exactement, peut-être je vous l'ai dit, c'est un petit peu, si je vous l'ai dit une fois, c'est un peu comme ce matelas, vous voyez, brancher la prise et d'un seul coup, il est plat et ouf, on dit comme ça. C'est ça la sponsorité. C'est de l'intérieur, ouf, le souffle de la sponsorité. Et on peut se reposer, faire oraison maintenant. Mais avec un corps plat, il n'y a pas la sponsorité dedans. Très, 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 c'est essentiel. Il n'y a pas la sponsorité, et bien il n'y a pas. Finalement, Joseph ne veut pas être le principe de l'Immaculée Conception au bout de 19 ans. C'est beau, ça, de savoir ça. Bon. Allons à sa rencontre. Volons à sa rencontre, car voici Jésus qui vient à nous.